Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits divers du Dauphiné libéré.
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, l'obscurité est totale et l'atmosphère glaciale dans la forêt des Coulmes. À 1200 mètres d'altitude, au cœur du massif du Vercors, l'endroit est désert. Cette nuit-là, le bruit des pas qui s'enfoncent dans la neige brise l'implacable silence. Cette nuit-là, 16 personnes avancent dans le noir, au milieu des pins et des épicéas. Cette nuit-là, 5 hommes, 8 femmes et 3 jeunes enfants marchent vers leur mort. Nous revenons aujourd'hui sur une affaire criminelle hors norme. Une tragédie dans laquelle 13 adeptes de la secte de l'ordre du Temple solaire ainsi que 3 enfants ont péri au cours d'un sacrifice collectif. Dans cette histoire, la rigueur intellectuelle des enquêteurs va se heurter aux thèses ésotériques les plus folles. En dépit de 5 années d'instruction, de nombreuses questions resteront sans réponse. Nous sommes le samedi 23 décembre 1995. En France, on s'apprête à fêter Noël. Mais un terrible drame va faire basculer le pays dans l'horreur. La veille, à Saint-Pierre-de-Chérennes, en Isère, une commune située dans le massif du Vercors, 4 véhicules appartenant à des personnes portées disparues depuis une semaine sont repérés par les gendarmes en fin d'après-midi. Ils sont garés en lisière de la forêt des Coulmes. Les gendarmes savent que les propriétaires de ces voitures font partie d'un groupe de 16 disparus. Parmi eux, il y a 3 enfants et 13 adultes identifiés comme étant proches de l'ordre du Temple solaire. L'inquiétude est palpable, car une 50aine de membres de cette secte sont morts un an plus tôt, en Suisse et au Canada, lors de sacrifices collectifs. Des recherches sont donc immédiatement lancées aux alentours. Mais, malgré les efforts des gendarmes, elles restent vaines. Le lendemain matin, le 23 décembre, un garde-chasse apporte un témoignage capital. Il explique qu'une semaine plus tôt, dans la matinée du 16 décembre, il est venu dans le secteur observer les traces des animaux dans la neige. Il affirme que les 4 voitures étaient déjà là. Il confie également avoir senti une odeur de cuir brûlé et avoir remarqué, sur un sentier, des traces de pas dans la neige fraîche. Des informations qui ne sont guère rassurantes, mais qui indiquent aux gendarmes dans quelle direction chercher. Accompagnés de chiens, ces derniers s'élancent alors dans la forêt des Coulmes vers un lieu dit au nom évocateur, le Trou de l'Enfer. Après plusieurs minutes de marche, c'est une scène insoutenable qu'ils découvrent. 16 corps, en partie carbonisés, sont disposés en étoile autour des restes d'un feu. Comble de l'horreur, 3 jeunes enfants font partie des victimes. Cette mise en scène macabre est le point de départ d'une longue et minutieuse enquête. Luc Fontaine est le juge qui a instruit l'affaire.
Les corps sont découverts donc à l'intérieur, dans la forêt, au fond d'une doline, en cercle, avec 2 personnes qui sont en position un petit peu divergente, On va découvrir que les corps sont en partie carbonisés. Alors, faut pas imaginer une carbonisation totale. S'il y avait une carbonisation totale, évidemment, on aurait identifié absolument personne, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, une carbonisation partielle des corps, la présence de trois enfants, vous l'avez signalé, évidemment, qui renforce le caractère quand même terrible de cette affaire. La présence très rapidement identifiée de quatre armes qui sont découvertes sur la scène de crime, deux pistolets 22 longs rifles, deux revolvers de calibre 357 Magnum et un enchevêtrement de boîtes de médicaments, de vêtements, etc. Et également un bouchon d'essence qui sera déterminant pour essayer d'apprécier la quantité de produits carburants qui a dû être utilisé pour mettre le feu, j'allais dire, au corps.
Les visages sont comment? Ils sont découverts? Ils sont...
Alors, il y a peut-être une petite interrogation là-dessus. Il n'est pas impossible que certains d'entre eux se soient couverts le visage avec des sacs en plastique qui ont fondu. Mais les visages sont assez facilement identifiables, puisque d'ailleurs, dans cette affaire, on a été amené à faire des identifications génétiques seulement pour deux des victimes, parce que les gens étaient très rapidement identifiés. Les gens étaient d'autant plus facilement identifiés, d'abord qu'ils étaient reconnaissables, et qu'on a découvert dans les voitures dont j'ai parlé tout à l'heure leurs documents d'identité, qui avaient été laissés dans les véhicules.
Les enquêteurs savent donc d'emblée qui sont les victimes. Elles sont connues pour leur appartenance à l'Ordre du Temple Solaire, une organisation occulte dont ils ignorent tout. Ils commencent donc par s'intéresser à ce qui s'est passé en Suisse au mois d'octobre 1994.
Donc dans la nuit du 3 au 4 octobre 1994, 53 personnes sont découvertes tuées. D'abord dans un chalet à Chéry, dans le canton de Fribourg, puis dans deux chalets à Salvan, dans le canton du Valais. Ce sont des endroits qui sont distants de 85-90 km. À Chéry, on va découvrir des gens qui sont tués un petit peu comme dans le Vercors. Simplement, manifestement, ils ont participé à une cérémonie rituelle, puisqu'ils sont habillés en cape avec leurs habits rituels. Ils ont tous été tués par des armes de calibre 22 longs rifles, donc un tout petit calibre, donc pour certains des dizaines de tirs de feu, comme dans le Vercors, sur des armes de tout petit calibre. Par contre, à Salvan, les gens ne sont pas morts du tout de la même façon. Ils sont morts, entre guillemets, empoisonnés, intoxiqués. Et d'ailleurs, on va trouver un document qui sera identifié comme étant de la main de Jouret. Je vous rappelle que Jouret est médecin. Où il est
Jouret, c'est un des fondateurs.
Un des fondateurs, un des adjoints, un des proches de Jody Mambro.
Jody Mambro et Luc Jouret sont les fondateurs de la secte.
Disons que Jody Mambro, c'est sûr, Jouret arrive un peu après. Mais enfin, disons que c'est le noyau dur, on va dire. C'est le noyau dur. Et on va découvrir un petit document qui est IV, donc intraveineuse, c'est comme ça évidemment qu'il est identifié, et avec un cocktail médicamenteux qui a occasionné la mort de toutes les personnes qui sont découvertes à Salvan. Donc la Salvan, c'est vraiment différent, donc intraveineuse à Salvan, arme à feu à Chéry. Les gens qui sont découverts à Salvan sont les proches de Jody Mambro. Ça c'est absolument certain. Les personnes qui vont être identifiées dans le Vercors, ce sont, alors on va mettre à part les trois enfants, naturellement ça n'a aucun sens, ce sont des gens qui ont été identifiés dans le cadre de l'enquête suisse, c'est des gens effectivement qui sont proches de l'Ordre du Temple Solaire, qui ont appartenu et qui effectivement étaient généralement assez proches de Jody Mambro.
Dans le Vercors, les gendarmes passent la scène de crime au peigne fin. Des centaines de photos sont prises, des dizaines d'objets sont placés sous scellés. La position des corps attire tout de suite l'attention des enquêteurs. Parmi les 16 personnes retrouvées mortes, 14 sont étendues sur le dos, les pieds dans le foyer. A l'inverse, les corps d'André Fredly, un architecte suisse de 39 ans, et de Jean-Pierre Lardanchet, un policier de 36 ans qui vit dans le Vaucluse, sont allongés sur le ventre, la tête au centre du cercle. La position différente de ces deux corps, ainsi que les analyses balistiques qui seront menées par la suite, sont déterminantes pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre. Les enquêteurs vont ainsi pouvoir établir avec certitude que ces deux hommes ont exécuté les 14 autres personnes à l'aide d'armes à feu, avant de se suicider. Un scénario d'autant plus glaçant que leurs épouses font partie des victimes. Tout comme les enfants du policier, deux garçons âgés d'à peine 18 mois et 4 ans. Le troisième enfant qui a perdu la vie dans le Vercors est une petite fille de 6 ans, qui vivait à Genève avec sa mère, elle aussi décédée dans la forêt des Coulmes. Parmi les personnes qui sont mortes cette nuit-là, il y a aussi une thérapeute de Collonges-sous-Salève en Haute-Savoie, un policier parisien, trois femmes et un homme domiciliés à Genève. Il y a aussi Patrick et Edith Vuarnet, le fils et l'épouse du champion de ski, Jean Vuarnet. Les médicaments retrouvés sur place, ainsi que l'autopsie des corps, prouvent que la plupart d'entre eux ont absorbé des sédatifs, mais que les doses n'étaient pas mortelles. Les enquêteurs savent donc désormais comment ces personnes sont mortes. Leur objectif est maintenant de déterminer pourquoi. Ils vont pour cela se concentrer sur le profil des victimes, afin de comprendre qui elles sont.
Alors qui sont-ils ? Ce sont des gens ordinaires. Ce sont pas des marginaux. Ce sont tous des gens qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui sont plutôt d'un niveau supérieur. Faut pas imaginer que c'est des illuminés au sens habituel du terme. Non, c'est des gens qui ont une vie normale. Je vous ai expliqué qu'il y en avait deux qui étaient fonctionnaires de police. Quand on va travailler sur les gens du temple solaire, travaillent dans les milieux médicaux et paramédicaux. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très très importante. D'ailleurs, celle qui, semble-t-il, a organisé ce qui s'est passé dans le Vercors était thérapeute. Alors, thérapeute entre guillemets, c'est pas évidemment un métier réglementé, mais c'est elle qui avait un petit peu organisé. Et puis très rapidement, on a aussi une chance, c'est qu'on va identifier quatre personnes qui habitent dans la région de Collonges-sous-Salève, en Haute-Savoie, qui vont rapidement nous dire, après qu'on les ait identifiés, parce qu'ils vont pas spontanément venir déclarer ça, qu'ils avaient été pressentis pour faire partie du groupe et qu'ils s'en étaient retirés. Un témoignage indirect de dernière minute qui est relativement intéressant quand on essaye de remonter dans le temps de leurs agissements.
D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous identifiez quatre personnes qui habitent en Haute-Savoie qui auraient pu faire partie de cette tragédie, mais qui n'ont pas été au bout.
Alors, qui n'ont pas été au bout, ils l'expliquent d'ailleurs, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ils vont dire, on l'aurait fait pour Jody Mambro. D'ailleurs, on a été surpris de ne pas avoir été, entre guillemets, invité par Jody Mambro au mois d'octobre 1994.
En Suisse.
En Suisse, voilà, absolument. Ajoutant peut-être qu'ils pensaient qu'on n'était pas prêts. Et après, un petit groupe s'est reconstitué quelques mois après les événements d'octobre 1994. Au domicile de cette thérapeute genevoise. Et puis, eux, à partir du moment où on leur a remis un alphapage, un petit appareil électronique, on est avant le téléphone portable, faut jamais oublier ça. On aurait eu les téléphones portables à l'époque, ça aurait été intéressant pour travailler dessus d'ailleurs. Donc, on va leur remettre une petite alphapage et une grille de codage, et là, ils comprennent et disent non, on veut pas. Alors là, c'est vrai que ces gens-là, faut bien reconnaître que s'ils avaient pris initiative d'aller voir les gendarmes ou la police en disant attention, il y a quelque chose qui se prépare, on aurait peut-être évité ce drame. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, ils l'ont pas fait. Ils n'étaient pas non plus certains que ça arrive, évidemment.
Mais leur témoignage est capital, sur le moment.
C'est les derniers membres du groupe qui ont assisté aux réunions organisées par cette thérapeute avant les événements. En tout cas, les semaines avant, peut-être même les jours avant.
Et alors, ces gens-là, ils vous apprennent quoi, du coup ?
Alors, ils nous apprennent que le groupe s'est reconstitué après les événements d'octobre 1994, que le groupe se réunissait donc chez cette thérapeute genevoise, qu'on recommençait à parler des apparitions des maîtres, d'être en relation avec l'au-delà, et qu'il fallait continuer l'œuvre, et qu'il avait été décidé de continuer l'œuvre, et qu'il fallait poursuivre l'œuvre de Jody Mambro.
Poursuivre l'œuvre de Jody Mambro. Est-ce pour cette raison que 16 personnes sont mortes dans le Vercors ? Plusieurs hypothèses sont envisageables.
Bon, si on veut vraiment synthétiser à l'extrême, il y a deux thèses possibles. La thèse, c'est le suicide à huis clos. Bon, 14 personnes sont tuées dans le Vercors avec des armes de calibre 22 longs rifles. Les deux derniers à mourir sont ceux qui se tirent une balle dans la gorge avec les armes de 357 Magnum. Donc, meurtre, suicide collectif à huis clos, sans intervention extérieure. La deuxième hypothèse, c'est une intervention extérieure, des tiers qui viennent assassiner ces gens-là et qui, le forfait ayant été réalisé, quittent les lieux. On peut imaginer une troisième hypothèse qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire la manipulation de ces gens-là les conduisant à commettre les faits avec quelqu'un qui manipulerait les gens à distance.
Intervention extérieure ou pas ? C'est la question qui obsède les enquêteurs. Pour essayer d'y répondre, ils vont s'intéresser à la crémation des corps.
C'est pas une crémation à Bénarès en Inde, hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est une crémation très incomplète. Alors, elle n'est peut-être pas allée à son terme pour des raisons, par exemple, météorologiques ou climatiques. En tout cas, elle est très incomplète. Et les prélèvements qui vont être réalisés sur la scène de crime vont permettre d'identifier de manière certaine, là aussi, des traces de supercarburant. Ça, on sait que c'est du supercarburant qui a été utilisé comme élément déclencheur de la combustion. On ne trouve pas grand-chose sur place. On trouve une petite bouteille et surtout, on trouve un bouchon d'essence, un bouchon de jerrycan, plus exactement, qui va être identifié comme étant un jerrycan, généralement acheté dans les stations suisses. Alors, on trouve le bouchon, on trouve le jerrycan, mais le jerrycan est complètement fondu. Donc, on ne peut pas identifier la capacité du jerrycan, ce qui est important, parce que les parties civiles vont me dire, mais attendez, il faut combien de litres d'essence ? Est-ce qu'il faut 5 litres pour brûler les corps ou il en faut 500 ? S'il en faut 500, la complicité extérieure, elle est évidente, évidemment. Enfin, ça va de soi, quoi. Donc, on va identifier que ces bouchons d'essence correspondent à des jerrycans de 5 à 10 litres. Et on va essayer de déterminer, est-ce qu'avec 5 ou 10 litres, on peut brûler les corps tels que ça a été constaté sur la scène de crime. Alors là, c'est l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale qui va faire les expertises, et elle va travailler de la manière suivante. On va d'abord s'apercevoir qu'aux États-Unis, ils ont fait des expériences sur les crémations, et qu'à l'occasion de ces expériences sur les crémations, ils avaient utilisé l'animal qui était le plus proche du corps humain, c'est le cochon. Donc on a utilisé des cochons et on a essayé de les faire brûler. Alors c'est ce qu'on a fait, donc on a essayé de les faire brûler. Alors tout ça s'est passé en région parisienne, à Rosny-sous-Bois. À l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, on a pris des cochons, on a mis du feu, de l'essence, on y a mis le feu. Et puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que l'essence, il y a un effet de souffle énorme qui se produit quand on allume de l'essence. Et puis, une fois que l'effet de souffle est passé, le carburant a été brûlé. Et puis, bon, on assiste à une légère brûlure des poils de l'animal, mais rien de particulier. Donc, on s'est dit, on va essayer de le faire sur place. On va essayer de le faire sur place, parce que je rappelle qu'on est dans une doline, qu'on est un peu plus à l'abri du vent. Bon, ça ne va pas donner grand-chose. Mais l'expert qui avait été désigné pour m'assister dans cette affaire, qui était le docteur Bacard, lui il connaît très bien ces matières-là, et il a dit, mais il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on, entre guillemets, qu'on habille ces cochons avec des habits de montagne. Ils avaient des habits de montagne tous, hein. Ils étaient des bottines de montagne, des combinaisons de ski. Parce que quand on allume ce type de vêtements, des aliments synthétiques, il y a ce qu'on appelle un effet de mèche qui se produit, et ça provoque une combustion dans la durée, extrêmement lente, mais dans la durée. Et effectivement, en faisant ça, on s'est rendu compte que ça marchait. Donc, les animaux ont été habillés avec ces combinaisons de montagne. On a mis de l'essence dessus. Il y a un énorme effet de souffle qui se produit de manière assez classique. Et puis après, les vêtements ont brûlé, se sont carbonisés dans le temps, occasionnant des blessures sur les chairs, à peu près conformes à celles qui avaient été constatées lorsque les gendarmes ont découvert les corps. On en déduit quoi ? On en déduit qu'avec 5 ou 10 litres d'essence, les combustions telles qu'elles ont été constatées, c'est possible.
En mars 1997, un peu plus d'un an après les événements du Vercors, un nouveau drame impliquant des adeptes de l'ordre du Temple solaire se noue à Saint-Casimir au Canada. Sauf que cette fois, il y a des survivants. Dans ce nouvel épisode, ce sont 5 personnes qui périssent dans l'incendie d'une maison située dans la province de Québec. Mais 3 adolescents, de 13, 14 et 16 ans, ont, à leur demande, été épargnés par leurs parents au dernier moment. C'est la première fois que dans une affaire concernant l'ordre du Temple solaire, il y a des témoins. Grâce aux investigations sur place et aux récits des jeunes gens, les policiers canadiens établissent avec certitude que les personnes sont mortes, sans le moindre concours extérieur. Cette ultime affaire vient renforcer la thèse selon laquelle les drames liés à cette secte se déroulent à huis clos. Que ce soit au Canada, en Suisse ou dans le Vercors, le travail des enquêteurs ne mettra jamais à jour d'éléments probants accréditant une quelconque intervention extérieure au groupe.
Sur le Vercors, la thèse de l'intervention extérieure, objectivement, elle est absolument irrationnelle, quoi. irrationnel. En Suisse non plus, quoi. En Suisse non plus, les armes du crime de Chéry sont retrouvées à Salvan. Les Suisses ont fait un énorme travail. Ils ont travaillé, il y a un travail absolument énorme. Non, moi je suis absolument persuadé que la thèse de l'intervention extérieure n'est pas raisonnable.
Reste aux enquêteurs à explorer les autres hypothèses. La mort de ces gens est-elle le fruit d'une dérive sectaire ou d'une manipulation? Pour répondre à cette question, ils n'ont d'autre choix que de se plonger dans l'univers occulte de l'ordre du Temple solaire. Une tâche immensément complexe.
Là, on s'éloigne tout à fait du comment ces gens sont morts à essayer de comprendre le pourquoi ces gens sont morts. Et à ce moment-là, évidemment, ça devient quelque chose de très compliqué, très ésotérique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il va falloir essayer de comprendre la mécanique du groupe. Pour comprendre la mécanique du groupe, on va s'asseoir sur les éléments essentiels qu'on a, c'est-à-dire c'est l'enquête suisse. Un gros travail a déjà été fait et on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce groupe, quel est son historique, bon, bien entendu, quels sont ses financements, parce qu'on peut aussi se poser la question des financements. Est-ce que, éventuellement, le groupe ne se serait pas annihilé, j'allais dire, pour des problèmes d'argent? C'est pas du tout impossible. On sait qu'il y avait beaucoup d'argent qui était manié dans cette secte avec des donateurs qui étaient absolument invraisemblables, des sommes absolument folles. Et là, on va essayer de comprendre comment tout ça est créé. Alors, on va remonter l'historique, on va essayer de comprendre les hommes, le parcours des hommes, le parcours de Di Mambro. Qui est Joe Di Mambro, bien entendu? D'où vient-il? Qui est Jouret? D'où vient-il? Qui sont ces gens qui se sont agrégés autour de lui pour créer une petite communauté à Genève, appelant les Watts, et qui vont vivre en communauté? Et tous ces gens sont morts, hein, bien entendu, parce que tous les proches de Joe Di Mambro sont morts. Et qu'il y a quelque chose qu'on va très rapidement identifier, c'est que les gens qui sont morts, c'est pas les gens de l'ordre du Temple solaire. C'est les gens du cercle intérieur, qu'on appelle le cercle doré ou le cercle rose-croix. Ce type d'organisme est organisé, j'allais dire, en cercle concentrique, d'une certaine façon, pour essayer de comprendre. En cercle concentrique, vous avez un cercle extérieur et un certain nombre de cercles intérieurs. Les cercles extérieurs, ils l'appellent le cercle exotérique. Et le cercle intérieur, le cercle ésotérique. C'est leur vocabulaire, naturellement. Le cercle extérieur, c'est plutôt Jouret qui en a, j'allais dire, qui organise ça. Et le cercle extérieur, c'est ce qu'on peut appeler l'OTS, d'une certaine façon.
Donc, l'ordre du Temple solaire.
Voilà. Ils appellent ça ordre chevaleresque initiative de tradition solaire, OTS, enfin, peu importe. Hein. Faut savoir que l'OTS est créé dans les années 50 en France, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Par quelqu'un qui se rapproche du groupe aussi, bien entendu. Alors là, ce cercle extérieur, donc, on organise des conférences, des réunions, mais tout le monde peut aller à ces réunions, hein. C'est ouvert. D'ailleurs, Jouret, c'est surtout Jouret qui est le conférencier. On parle de médecine parallèle, de médecine douce, beaucoup d'homéopathie, évidemment. Des médecins interviennent, un certain nombre de personnes interviennent. C'est quelque chose d'assez ouvert. Et après, on dit aux gens, si vous êtes intéressés, vous pourriez progresser dans le groupe. À l'intérieur, il y a un groupe un petit peu plus sérieux. On fait de l'initiation, il y a de l'enseignement ésotérique. Vous pourriez gravir des échelons. C'est un peu comme la franc-maçonnerie, si vous voulez. Ça y ressemble beaucoup. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, ils rentrent dans le cercle intérieur, et puis, gravissant les échelons, on arrive au cercle doré, qu'ils appellent le cercle doré. Pourquoi doré? Probablement référence à l'ordre initiatique de la Golden Dawn, un ordre initiatique du 19e siècle. L'or, c'est la perfection, c'est l'alchimie aussi, vous voyez. On est dans le symbolisme, là.
Il y a beaucoup de références.
Symbolique, ésotérique, bien sûr. Oui, ça, bien sûr. C'est ça qui est très compliqué à décrypter, d'ailleurs, qu'on n'y connaît rien. Franchement, ça, c'est très, très compliqué, hein, à essayer d'identifier à quoi correspondent tous ces symboles. On est dans du symbolisme pur. D'ailleurs, la question qu'on va se poser, est-ce que c'est une mort symbolique qu'ils ont voulu, une mort réelle? On sait que nous, c'est une mort réelle, mais on a pu leur faire croire que c'était une mort symbolique. Hein. C'est compliqué. Mais cette organisation en cercle, elle présente un seul intérêt, un seul intérêt en termes de compréhension, c'est que les gens qui sont morts, c'est ceux du cercle intérieur. Les gens du cercle extérieur ne sont pas morts. Ceux qu'on appelle les gens de l'OTS, il y a eu des morts, bien entendu. Mais la plupart sont absolument toujours vivants, à moins qu'ils soient décédés de mort naturelle depuis. Mais les gens de l'OTS ne sont pas morts. Et donc, les gens du cercle extérieur, leur témoignage, il est intéressant. Mais les gens du cercle extérieur ne peuvent pas forcément dire ce qu'il y avait dans le cercle intérieur où tout le monde est mort. Et c'est ça la difficulté de ce dossier. C'est que c'est vraiment, comme disait Di Mambro, la crème des crèmes qui est décédée.
Au Canada, en Suisse et en France, ce sont au total 74 personnes qui ont perdu la vie dans les différents massacres liés à l'ordre du Temple solaire. Des gens qui était en quête de spiritualité et qui aurait épousé la doctrine de cette organisation occulte. Dans les courriers posthumes laissés par Jody Monbrot en 1994, dans ceux laissés par les personnes décédées au Canada en 1997, mais aussi dans les très nombreux documents écrits ou audio analysés par les enquêteurs, il est question d'apocalypse, de dématérialisation de l'être par la crémation, de la terre qui serait promise à une destruction prochaine, de la mort, comme un moyen d'effectuer un transit vers la planète Sirius. Dans les écrits que Jody Monbrot a fait envoyer à la presse, au lendemain de sa mort dans les massacres suisses, il affirme
« Notre transition consciente et volontaire entraîne avec elle tous ceux qui acceptent en eux le feu christique d'une façon vivante. Nous avons planifié, en plein état de conscience et sans fanatisme aucun, notre transit, qui n'est en rien un suicide au sens humain du terme. »
Dans une lettre laissée pour ses proches, un adepte mort en 1997 au Canada écrit
« À vous qui êtes réceptif à cet ultime message, que notre amour et notre paix vous accompagnent dans les terribles épreuves de l'apocalypse qui vous attendent. »
Quelques mois plus tôt, il avait confié à sa sœur
« La mort n'a rien de dramatique. Les membres se sont suicidés pour partir volontairement rejoindre la planète Sirius où tout le monde se retrouve. »
Il parle de transit sur Sirius. Sirius, c'est une étoile, c'est pas une planète d'ailleurs. Bon, peu importe. L'idée qu'ils retiennent, qu'on trouve dans leur littérature, mais dans la littérature même ancienne de ce type d'organisation, c'est la notion de sacrifice christique. On doit faire un sacrifice christique, donc à l'image du Christ, qui est pur. On se sacrifie pour sauver l'humanité tout entière. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est même pas partir vers un monde meilleur. C'est se sacrifier pour sauver le reste de l'humanité. Dans leur texte, il y a beaucoup ça, le Christ, le sacrifice christique.
Et comment on peut expliquer que ces gens entraînent leurs enfants avec eux ? Enfin, ces gens.
Oui, vous avez raison, c'est une question que je m'étais posée, bien sûr. Et j'avais d'ailleurs posé la question à certains adeptes, ils m'avaient répondu clairement, lorsque j'en ai entendu des centaines et des centaines, pourquoi voulez-vous qu'on laisse nos enfants dans ce monde alors qu'on va vers un monde meilleur, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ces gens-là, il faut comprendre qu'ils ont réponse à tout. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas des gens qui sont, excusez-moi l'expression, des idiots, ce n'est pas des illuminés, c'est des gens qui ont... de fortes convictions. Hein. C'est pas imaginer.
Et
que...
c'est pas forcément des gens fragiles, si on peut.
Pas forcément, non. Pas forcément. À moins de considérer que leurs convictions les fragilisent, ce qui est tout à fait possible. Mais c'est pas des gens fragiles, non. C'est pas des marginaux. C'est pas des gens fragiles. C'est tous des gens qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont souvent des revenus confortables, qui vivent bien.
Ça dépasse l'entendement quand même. Ce...
Ah ben c'est quelque chose qui est. Oui. C'est complètement incroyable. Oui, ça, on est d'accord. Ça dépasse l'entendement. Et plus on travaille dans ce dossier, plus on se rend compte qu'on s'éloigne des critères habituels de compréhension d'une affaire ordinaire. Hein, ça, c'est évident. Hein.
Au bout d'un moment, est-ce que l'instruction a duré longtemps ? Elle a duré 5 ans. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu l'impression de tourner en rond dans ces thèses qui...
Oui, on tourne en rond. On s'en rend compte. Moi, souvent, j'utilise cette expression, c'est qu'on a essayé évidemment de travailler sur énormément de choses, les groupes parallèles, le financement, l'organisation, les proches des uns et des autres, sur les 5 continents. Et puis on a l'impression qu'à un moment, donc on a une sorte de couloir avec 2 portes, on ouvre une porte pour aller voir bon, parce qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que ça va nous permettre de comprendre, et à ce moment-là, à nouveau, il y a 2 portes qui s'ouvrent, et c'est une sorte de labyrinthe infini. Donc au bout d'un moment, effectivement, je pense qu'à partir d'un moment, on a fait le tour des choses, c'est pas la peine de continuer. Et moi, je m'étais toujours dit, et je me suis trompé là-dessus, hein, qu'un jour, peut-être, des gens parleraient, parce que le temps a passé, des gens pas, et puis personne n'a jamais parlé en réalité. Donc probablement qu'il n'y a peut-être rien d'autre. Hein. Rien d'autre.
Rien d'autre que ce projet ésotérique. Mais, voilà. Mais c'est une affaire hors norme où il y a plein de questions qui sont restées sans réponse. En fait.
C'est obligatoire. Dans une affaire judiciaire simple, Monsieur X qui se présente à la gendarmerie en disant « Je viens de tuer ma femme, venez sur place, le corps est là, l'arme est là, voilà pourquoi je l'ai tué », il y a des zones d'ombre. Alors vous rendez compte, dans une affaire comme ça, où les morts se comptent par dizaines, où les morts se comptent sur 2 continents, le Canada et l'Europe, et où il y a, en plus, on baigne dans un bain d'hermétisme et d'ésotérisme en partie incompréhensible. Vous imaginez bien que les ondes d'ombre, il y en a forcément. C'est sûr que le puzzle, il manque des pièces. Hein. Ça, c'est évident qu'il manque des pièces dans ce puzzle. C'est pas possible autrement.
Quelles sont les questions, finalement, les plus évidentes sur lesquelles, au final, on n'aura pas de réponse.
À mon avis, la question la plus angoissante, d'une certaine façon, moi, je pense qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Ça, j'en suis absolument persuadé. Enfin, à 99%, quoi. Il reste toujours une marge d'aléa, naturellement, évidemment. Bon. Bon, enfin, il y en aurait eu, on l'aurait su depuis, quand même. Ouais. Vraisemblablement qu'on l'aurait su depuis, parce que le temps a passé. Donc, on part plutôt de meurtres commis, entre guillemets, à huis clos. Alors, est-ce que ces meurtres sont commis à huis clos, j'allais dire vraiment à huis clos au sens strict du terme, ou est-ce que ces gens ont été manipulés par des tiers? Est-ce qu'il y a peut y avoir la manipulation de tiers, manipulation psychique, manipulation psychologique, et de gens qui seraient vivants et qui tiraient, entre guillemets, les ficelles? Mais à ce moment-là, on se pose la question du pourquoi. Pourquoi faire ça?
Quel est le mobile, finalement?
Voilà, quel est le mobile? On a évoqué plein de mobiles, des mobiles crapuleux, on a parlé de trafic d'armes, ça c'était absolument absurde, mobiles d'argent. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ont donné de l'argent, et notamment deux mécènes ont donné des sommes absolument folles. Ils sont morts en Suisse, ceux-là, tous les deux. Il n'est pas complètement à écarter que les mécènes en question commençant à réclamer une partie des fonds qu'ils avaient amenés à l'ordre, que ça a pu précipiter la fin de l'ordre. C'est pas impossible. On a même parlé que Jody Mambrou avait un cancer. On sait que c'est absolument faux. Et puis, une affaire comme ça, vous avez, plein de manœuvres, plein de désinformations. Prétendu à un moment, des individus ont prétendu que Jouret était vivant en Australie. Des choses absolument absurdes, si vous voulez. Alors que Jouret, on sait qu'il est mort. L'ADN a été fait. On sait que c'est lui. Donc, enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si vous voulez, il y a aussi beaucoup de manipulation et de désinformation dans une affaire comme ça. Il faut garder la tête froide et pour essayer de comprendre. Parce que si on veut essayer de savoir, comprendre le pourquoi, il faut vraiment faire ça de manière méthodique et c'est très difficile. Et puis c'est vrai qu'on s'use dans ces affaires comme ça, on s'use beaucoup, hein, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre, et puis je pense qu'à un moment, on se dit, bah, de toute façon, tout comprendre, c'est impossible.
Dans ces conditions, le processus de deuil pour les familles des victimes est extrêmement difficile. Ces personnes, terriblement meurtries, tentent de comprendre pourquoi leurs proches ont disparu aussi tragiquement.
Pour les familles des victimes, c'est terrible parce que les familles des victimes, elles veulent bien entendu comprendre et elles veulent un coupable ou des coupables. C'est humain, ça c'est absolument humain. Et effectivement, pour les familles des victimes, l'idée selon laquelle une partie de leurs proches aurait accepté de mourir dans le Vercors alors que ces personnes-là était parfaitement au courant de ce qui s'était passé 15 mois auparavant en Suisse, c'est évidemment quelque chose qu'elles ne peuvent pas accepter. Se reprochent-elles, par exemple, d'avoir été aveugles sur la dérive de leurs proches? C'est pas du tout impossible. En même temps, j'allais dire, une explication rationnelle, c'est beaucoup plus satisfaisant qu'une explication en partie irrationnelle. Et effectivement, l'information judiciaire ne permet pas d'obtenir complètement une explication rationnelle sur ce qui s'est passé, parce qu'on n'arrive pas à tout expliquer. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai reçu les familles, bien entendu. Certains l'ont compris, d'autres moins, d'autres sont dans le doute. Donc, je sais pas quelle est leur position aujourd'hui. Avec le temps qui a passé, pour ceux qui sont encore vivants, ils peuvent aussi peut-être considérer que comme on n'a pas eu de révélation depuis, peut-être que la thèse qui a été, c'est elle qui était la thèse de l'instruction, hein, qui est quand même relativement étayée par des démonstrations, était peut-être la bonne. Hein. Mais c'est vrai que pour eux, c'est catastrophique. Même parler de la médiatisation qui a accompagné cette affaire, hein, bien sûr.
Mais elle recherchait une réponse rationnelle là où il n'y en avait pas.
C'est logique, on est tous à la recherche d'explications hyper rationnelles et en fait, elle n'est pas complètement rationnelle, la réponse qu'elle aurait été donnée. Ça, c'est évident et ça a pu les frustrer.
Parce que dans cette affaire, il y a une part d'irrationnel.
Absolument, il y a une part d'irrationnel qu'on n'arrive pas à maîtriser, bien entendu, qu'on n'arrive pas à comprendre complètement, ça c'est absolument certain.
Certains proches des victimes, notamment Alain Vuarnet, qui a perdu sa mère et son frère dans le Vercors, soutiennent encore aujourd'hui la thèse de l'assassinat par l'intervention d'un ou plusieurs criminels extérieurs au groupe. En janvier 2023, il déclarait dans une émission de radio.
Nous, les familles des victimes, n'avons aucune idée réelle de ce qui s'est passé là-haut.
D'autant que le procès qui s'est tenu à Grenoble en 2001 ne leur a pas apporté les réponses espérées. L'instruction a en effet abouti au renvoi devant le tribunal correctionnel de Grenoble de Michel Tabachnik, le chef d'orchestre suisse comparé à l'époque pour association de malfaiteurs. On le soupçonne d'être un théoricien de l'ordre du Temple solaire dont les écrits auraient participé à l'endoctrinement qui a conduit au suicide collectif. Michel Tabachnik a été relaxé. Une relaxe confirmée en appel 5 ans plus tard.
Ils ont considéré que les charges qui avaient été recueillies au cours de l'instruction ne constituent pas de preuves suffisantes. C'est comme ça que fonctionne le système judiciaire, naturellement. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que on se rend compte aussi, peut-être que le cadre juridique n'est pas satisfaisant pour traiter ce type d'affaires. Mais en même temps, est-ce qu'on peut trouver un cadre satisfaisant pour ce type d'affaires? J'en suis pas certain non plus, quoi.
Malgré 5 ans d'instruction et 2 procès, de nombreuses zones d'ombre demeurent autour des massacres du Vercors. Le décès tragique de ces 16 personnes continue de hanter la mémoire des familles des victimes, mais également de ceux qui ont participé à cette enquête hors norme.
Oui, c'est une affaire marquante parce qu'elle est troublante. C'est une affaire troublante, oui, c'est une affaire. Moi, j'y pense très régulièrement.
Encore aujourd'hui?
Oui, vous voyez, par exemple, j'y pense de moins en moins, évidemment, le temps étant passé, mais souvent je me dis, tiens, dans cette affaire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça? C'est ce petit élément, pourquoi on ne l'a pas vérifié à l'époque? Et puis en réfléchissant, je me dis, oui, mais ça aurait donné quoi? Ça n'aurait rien donné de plus. Mais c'est vrai qu'il y avait... je pense que c'est une affaire très marquante, très marquante, très très marquante. Parce qu'on essaie, je pense qu'elle est marquante, parce que le juge, il essaie de trouver une explication rationnelle à un phénomène qui ne l'est pas. Enfin, qui ne l'est pas en partie, en tout cas. Et évidemment, il y a un hiatus qui se produit à partir d'un certain moment, et que, bon, d'un moment, on dit, ben voilà, on a ça, on peut rien faire de plus. Je crois que ce qui est le plus difficile, c'est d'essayer de comprendre dans le menu détail ce qui s'est passé. Mmh. Et par-delà du comment, parce que le comment, on le sait par les expertises, le pourquoi. Voilà, ça, c'est vrai que ça reste une interrogation en grande partie. On n'a pas réponse à tout, et on ne peut pas avoir réponse à tout. Et ça, c'est vrai que c'est sûrement ce qui est peut-être pas le plus difficile, le plus dérangeant.
Parce qu'ils sont hors normes, les massacres liés à l'ordre du Temple solaire provoqueront une onde de choc mondiale. Suite à ces événements, les pouvoirs publics prennent conscience des dangers des dérives sectaires et de l'urgence de se doter d'outils pour lutter contre ce phénomène. En France, dans la foulée des drames du Vercors, est lancée la première commission d'enquête parlementaire sur les sectes. C'est un premier pas qui aboutira à la création en novembre 2002 de la fameuse Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.